J'ai rêvé totalement ce qui se passe.
Bonjour, c'est l'heure de parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous donne l'opportunité de vous exprimer sur des sujets qui vous captivent. Ce mardi, c'est la décision du chef de l'État de suspendre l'exploitation minière dans le Nord Kivu, Sud-Kivu et le Maniema qui sera au centre de notre émission. Une décision après avoir constaté l'ampleur de l'exploitation minière dans cette partie du pays, résultant du fait des activités des groupes mafieux qui concordent en dépit des efforts de stabilisation, l'insécurité récurrente, ainsi que le paradoxe entre les richesses minières qui regorgent les provinces de l'Est et la pauvreté généralisée de leur population, et enfin l'implication manifeste de certaines autorités locales, provinciales et nationales, tant civiles que militaires, dans l'exploitation illégale et le commerce illicite des substances minérales. Cela fait une dizaine de jours que la décision a été prise. Elle est d'application immédiate à la date de sa signature, comme l'indique le communiqué officiel signé par le ministre des Mines, Martin Kavolulu. La question pour lancer notre émission, quelle est votre réaction face à cette décision? Nous avons invité pour vous M. François Ndekouyé, le directeur général du Bureau d'études minières et environnementales, une organisation d'expertise dans le secteur minier, Pierre Lamégi, sous la Bastille, sous la supervision de l'Union de Dakar. Quant à la réalisation de cette émission, Alain Gold est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
En attendant qu'on puisse contacter notre invité François Ndekouyé qui sera au bout du fil parce qu'il se trouve pour l'instant à Lubumbashi, comme je vous l'ai dit, il est directeur général du Bureau d'études minières et environnementales, EMS, c'est une organisation d'expertise dans le secteur minier. Nous allons commencer cette émission avec nos auditeurs qui sont au bout du fil. Il y a par exemple Adolphe de Bukavu. Mais pour introduire ce sujet, il est prévu aujourd'hui une conférence de presse du ministre des Mines sur les mesures d'accompagnement à la décision du chef de l'État. Si tout se passe normalement, nous espérons avoir au cours de cette émission le directeur de cabinet du ministre des Mines qui pourra nous dire en quelques mots en quoi consistent ces mesures d'accompagnement. Bien sûr, si la conférence de presse se termine avant la fin de cette émission. D'autre part, il faudrait aussi souligner Kagoma, chef du Nord Kivu, Julien Paluku, le gouverneur de province, entend également donner une conférence de presse pour éclairer l'opinion à ce sujet. Donc, ce sont des questions qui vous concernent, qui vous touchent, la décision du chef de l'État de suspendre l'exploitation minière dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. On voudrait avoir votre avis par rapport à cette décision. Bonjour Adolphe. Adolphe?
Oui, allô.
Adolphe, vous êtes...
Bonjour.
Oui, vous êtes à Bukavu, bonjour. Vous êtes dans l'une des provinces où la décision est tombée, on suspend l'exploitation minière dans votre province. Dites-nous un peu comment ça se passe sur le terrain.
En fait, c'est une situation qui décourage les uns et qui décourage les autres. En fait, cette décision n'est pas tombée, c'est quand le nombre de personnes s'attendait déjà à cela. En fait, mais selon moi, c'est malgré comment tu n'as pas voir du bruit. Moi, on allait d'abord commencer par donner ces embargo-là avant que l'État s'en détermine, quoi. Sinon, il y a certaines conséquences qui sont déjà positives et d'autres qui sont négatives et
réactionnelles. Mais dites-nous un peu, quand vous dites qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est positif, d'autres négatives, est-ce que vous pouvez nous expliciter un tout petit peu?
Bien sûr. Certaines conséquences ont été signalées qu'il y aura du travail dans la situation du secteur minier. je crois que là, on a choisi des matières premières d'une manière un peu vague, d'une manière un peu archaïque. Donc, il n'avait pas une certaine organisation. Mais comme, maintenant, il y a un seul embargo, justement, il y aura une certaine restriction de cette écriture-là. Ensuite, il y aura une réorganisation de l'armée, c'est pas une manière de ces cas. Les soldats, ce sont, les soldats sont décidés de créer des matières, pour les dépasser vraiment. À la mission de l'État est conférée de garder la sécurité nationale et si bien que la population, le soldat se fit à créer les matières premières. Et j'ai même assisté à une scène que certains rebelles ont pris la piste aéronautique de Kilambo. Alors qu'il y a des soldats qui sont là et ils ne font rien. Ils ne font rien.
Adolphe, une dernière question. Vous êtes à Bukavu. Est-ce que vous avez constaté qu'effectivement, dans les carrés lumineux, les gens ne se battent plus?
En fait, on avait donné une semaine, je crois. Il y a déjà certains qui sont déjà arrivés à Bukavu. Moi-même, j'ai certains témoignages déjà qui m'ont fait déjà. Et d'autres qui sont encore dans les centres. Mais je crois que c'est là. Donc, il y a certaines mamans qui applaudissent parce qu'il y avait des maris qui étaient là depuis des gens qui ne revenaient pas, mais qui ne reviennent. Mais il y a des conséquences, sinon il y a des conséquences négatives.
Mais sur le plan socio-économique peut-être, social.
Oui, sur le plan économique et social, parce qu'il y aura vraiment un peu élevé de chômeurs, il y aura aussi un peu élevé de voleurs, et aussi de handicaps. Il y en a qui avaient la vie de coucher, disons, 100 dollars par jour, 250 mètres, qui ne font plus toucher quelque chose, comprenez qu'il y aura un peu d'effet de chômage et aussi des voleurs, aussi des bandits. Et il y a celles qui ont pu les passer pour aller maintenant travailler là, pour aller voir comment c'est organisé. Et il y a l'ambassade qui sort brusquement. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit qu'il n'a pas dit mon passé, mais je donne l'argent à l'ambassade pour ça, et que les gens. Entre, tu m'as c'est mais combien d'embargo, je ne sais plus comment je vais rentrer.
Autant de retomber de cette décision, de suspendre l'exploitation, comme vous l'avez si bien expliqué, Adolphe de Bukavu. Merci pour votre intervention à partir du Sud Kivu. Nous allons écouter Sylvain de Bounia. Bonjour.
Madame Chantal, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, Sylvain, quelle est votre réaction face à cette décision?
Oui, mais en fait, Madame Chantal, vous verrez encore là de poser un grand problème, puisque en fait, la décision du chef de l'État, par rapport aux critères miniers du goût, c'est un réel problème. Il faut comprendre que d'abord, les seules conséquences sont d'ordre social, puisque ce qui était dans les critères, c'est l'autre chômeur. Or, moi, je dis que s'il faut prendre la section selon laquelle les faits de l'ordre de contrat ou chercher l'activité soit une solution à des problèmes de guerre et de conflits à l'ère du choix général, et principalement au Kivu, c'est une fausse décision. Pourquoi des histoires? En fait, rappelons que la conflictualité au Congo et en Afrique d'Ailleurs est liée à la gestion de la ressource. Puisque la gestion de la justice publique qui doit être faite pour tous les Congolais et que les gouvernements qui sont mis en place n'arrivent pas à répartir équitablement les richesses nationales. C'est ça les grands problèmes.
Il est sûr que l'une des causes des conflits armés dans l'est du pays, ce sont des causes d'origine économique minière. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure pourrait contribuer à pouvoir stabiliser et faire retourner la paix dans ces postes, dans ces zones où il n'y a pas de sécurité pour la population?
Écoute, madame, tous ces gens qui travaillent dans ces villes sont les pères à l'église des sorts. Et qu'il n'y ait pas une activité contre partout, c'est le droit de leur donner.
En tout cas, Sylvain, la communication.
Allô?
En tout cas, la communication n'est pas du tout bonne. Vraiment, la ligne s'est détériorée, mais quand même, on a, on a pu suivre, hein, quelles sont vos préoccupations. Vous pensez qu'il faudrait vraiment des mesures d'accompagnement qu'on puisse donner à tous ces exploitants miniers, autre chose à faire, parce que là, comme l'a souligné même Adolphe, notre premier intervenant, c'est de savoir que vont devenir ces exploitants artisanaux, ce qu'ils vont faire, comme on a suspendu l'exploitation. C'est autant de questions que nous pourrons poser à notre invité qui pourra donner des pistes de solutions, mais aussi si nous arrivons à voir le directeur du cabinet du ministre des Mines, lui à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui il y a un point de presse, toutes ces mesures d'accompagnement, il pourra nous dire ce qui a été prévu par le gouvernement en prenant cette décision. Nous avons un autre auditeur au bout du fil, il s'agit de Madame Émilie Serrata, elle fait partie de Global Witness. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous faites partie de Global Witness, c'est une ONG de défense des droits de l'homme. Vous avez sorti en 2009 un rapport sur l'exploitation illégale des mines à l'est du pays. Vous pouvez nous dire un peu quelles ont été vos motivations, parce que, en gros, dans votre rapport, vous décriez la participation des groupes armés et même de certains éléments des FARTC dans l'exploitation illégale de ces mines.
Oui, tout à fait. Notre rapport qui s'appelle « Face à un suivi » qui a été publié l'année dernière en 2009, renseignait sur la question de la militarisation du secteur minier à l'est de la RDC, en particulier au nord et au sud Kivu. Donc nous analysions la situation et notions qu'il fallait une intervention musclée, à la fois du gouvernement congolais, des compagnies qui achètent ces minerais et des bailleurs internationaux pour adresser cette question. Maintenant, le gouvernement vient de prendre une décision sur la suspension temporaire, nous l'espérons, de l'exploitation des minerais. Nous, de notre côté, ce que l'on aimerait voir, en fait, c'est que pour être efficace, il faudrait une stratégie bien construite et relativement transparente qui soit communiquée au public afin que les gens comprennent pourquoi cette décision a été prise et dans quelle durée elle va continuer et quels sont ses objectifs. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas cette clarté.
Vous n'avez pas cette clarté, mais pourquoi vous avez essayé de pouvoir enquêter sur cette situation-là?
Bien, il apparaissait très clair pour nous que la question des intérêts économiques à la fois des groupes armés et de l'armée nationale jouait un rôle primordial dans l'instabilité à la fois au nord et au sud qui jouent. C'est-à-dire que il y avait des efforts à tous les niveaux pour essayer d'adresser l'instabilité, sauf au niveau de cette question des ressources naturelles qui sont exploitées illégalement à la fois par les groupes rebelles et l'armée nationale. Donc il était primordial, si on voulait voir la paix s'installer à l'est du Congo, d'adresser cette question.
Et aussi, quelles sont vos recommandations, vos propositions pour pouvoir essayer de stabiliser cette région, mais aussi que les richesses puissent profiter effectivement à la population?
Oui, c'est exact. C'est une question en effet très importante parce que si vous avez des rebelles ou bien l'armée nationale qui force les mineurs à travailler ou bien qui les tasse en permanence, les mineurs se retrouvent rapidement dans un cercle vicieux où ils accumulent des dettes et finalement la richesse qu'ils avaient espérée en allant travailler de façon très dure dans les mines, puisque c'est un travail extrêmement difficile et dur et dangereux. Finalement, il n'y avait pas de retour financier et se retrouver dans une misère encore plus importante. Donc, nos recommandations, elles sont surtout aux compagnies qui achètent les minerais venant du Congo, en disant il faut que vous sachiez d'où viennent ces minerais, il faut que vous enquêtiez, parce que jusqu'à présent, les compagnies achetaient sans poser des questions, et donc il y a eu des compagnies qui ont acheté des minerais qui finançaient les FDLR. Donc ça, c'était une première question, mais aussi au niveau du gouvernement, qui est une approche beaucoup plus musclée vis-à-vis de l'armée nationale. On sait qu'il y a des officiers supérieurs de l'armée nationale qui sont impliqués dans l'exploitation des minerais. C'est illégal, hein, c'est très clair dans le code minier, ils ne doivent pas être impliqués du tout dans le commerce et l'exploitation. Il s'agit pour le gouvernement d'adresser cette question. Une façon de l'adresser, c'est d'enquêter sur ces personnes criminalités qui ont été, je dirais, dénoncées dans un certain nombre de rapports des Nations Unies, également nos rapports, éventuellement de prendre des mesures préventives, telles que geler les avoirs importants de ces militaires impliqués. Il y a beaucoup de choses à faire, et la suspension, je dirais, de l'exploitation n'est pas la seule mesure qui peut résoudre le problème. Il faut une stratégie beaucoup plus complexe, et il faut que cette stratégie soit bien communiquée au public pour que tout le monde comprenne dans quelle direction on va et quels objectifs on cherche à atteindre.
Merci beaucoup, Madame Émilie Serratel, donc à vous suivre. On se pose des questions, est-ce que réellement vous pensez que cette mesure du chef de l'État peut contribuer à stabiliser la région?
J'espère que, comme je vous l'ai dit, il y aura une stratégie claire qui sera communiquée à tout le monde, parce que sinon on ne voit pas dans quelle direction on va. Suspendre uniquement sans adresser les autres problèmes tels que l'implication de l'armée nationale, par exemple, dans ce commerce, ou en ayant recours uniquement à des opérations militaires, ça ne va pas solutionner le problème. Donc il faut une stratégie beaucoup plus complète et nous espérons que le gouvernement va la dévoiler au public rapidement.
Merci beaucoup, Madame Émilie Serrata. Vous êtes de Global Witness, une organisation internationale de défense des droits de l'homme.
Parole aux auditeurs.
Nous avons enfin notre invité, il s'agit de François Ndékouyé, il est directeur général du Bureau d'études minières et environnementales, EMS, une organisation d'expertise dans le secteur minier. Bonjour Monsieur Ndékouyé. Nous l'avons encore une fois perdu, la réalisation est en train de se battre pour l'avoir au bout du fil, quand elle pourra participer à cette émission qui est d'une grande importance, parce qu'aujourd'hui, parole aux auditeurs, nous échangeons avec les auditeurs de la décision du chef de l'État de suspendre l'exploitation minière dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, une décision qui a été prise après avoir constaté l'ampleur de l'exploitation minière dans cette partie du pays, résultant du fait des activités des groupes mafieux qui confortent en dépit des efforts de stabilisation, l'insécurité récurrente, ensuite le paradoxe entre les richesses minières que regorgent les provinces de l'Est, la pauvreté généralisée de ces populations et enfin l'implication manifeste de certaines autorités locales, provinciales et nationales, tant civiles que militaires, dans l'exploitation illégale et le commerce illicite des substances minérales. Encore la réalisation de cette émission, l'invité est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Ndékouyé.
Bonjour, madame.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à pouvoir vous contacter. Heureusement, vous êtes là. Vous serez avec nous tout le long de cette émission pour pouvoir essayer d'échanger avec les auditeurs sur cette question. La suspension, bien sûr, de l'exploitation minière dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province du Maniema. À ce propos, pour l'instant, il est en train de se tenir au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Mines est en train de tenir une conférence de presse sur les mesures d'accompagnement de la décision du chef de l'État et aussi au niveau de Goma, donc dans la province du Nord Kivu. C'est le gouverneur Julien Paluku qui entend également donner une conférence de presse pour éclairer l'opinion à ce sujet. Monsieur François Ndékouyé, quelle analyse faites-vous de cette décision du chef de l'État?
Bien, c'est une décision d'autorité qui n'appelle pas en principe des contestations, ça doit être exécuté. C'est une décision qui vient pour conclure toutes les analyses et toutes les conférences qui ont été tenues sur la question depuis plusieurs années. Et je me rappelle qu'en marge de la fête du 49e anniversaire de l'indépendance, il s'est tenu un atelier à Goma sur la relance de l'activité du secteur minier à l'Est. Et cette question de militarisation des zones minières a été abondamment évoquée. Et l'on a remarqué effectivement que cette militarisation avait des implications dans la chaîne de commandement, donc du niveau local au niveau national, tel que le communiqué du ministre des Mines l'a si clairement dit. Et puis, de plus en plus, l'activité des groupes armés devient de plus en plus marginale dans les zones minières. ce sont des militaires, souvent ex-CNDP, entrés dans l'armée, qui gèrent cette chaîne. Et donc, dès lors qu'ils répondent au commandement de l'armée, il est possible de les contrôler et de régler les problèmes des ministères du sang pour éviter effectivement que les mines ne continuent à alimenter les mouvements armés.
Mm-hmm.
Mais en marge de cela, la question fondamentale aujourd'hui est de savoir effectivement comment on occupe tous ces milliers de personnes qui vivent les mines aujourd'hui, mm-hmm. qui ne sont pas des militaires.
Effectivement, parce que la décision concerne toutes les catégories d'acteurs miniers, les détenteurs des titres voilà. miniers, des droits miniers, les emplois, voilà. les négociants, ainsi que les exploitants artisanaux.
Oui, ça pose effectivement plusieurs questions. On espère bien évidemment que les ministres mines pourront nous y répondre valablement.
Mm-hmm.
Parce que d'abord, pour ce qui concerne les populations vivant de l'artisanat minier à Wallika essentiellement, et on se rend bien compte que ces populations vont se retrouver dans une situation précaire et risquent effectivement d'allier des mouvements militaires rebelles ou autres. Donc c'est une crainte à ce niveau-là. Au niveau des négociants et des anciens des comptoirs de mines, je parle au nom de Kivu, ce qui vous anime, il se pose un problème des contrats. Ils ont pris des engagements avec les acheteurs à l'étranger et avec des préfinancements très souvent. Et donc, la suspension des activités minières va créer un problème de crédibilité de ces entrepreneurs qui ont signé des contrats de bonne foi avec des partenaires étrangers et qui ne seront pas à mesure d'honorer leurs engagements. Il faudrait voir dans quelle mesure le gouvernement congolais va permettre à ces entreprises à rembourser éventuellement les créances qu'ils ont, ou en tout cas qu'ils fixent les délais de suspension qui soient les plus courts possibles pour éviter effectivement qu'il y ait des retards de livraison et que les contrats soient rompus entre les entreprises congolaises qui sont dans le secteur et les entreprises étrangères qui achètent nos minerais.
Mm-hmm.
Enfin, il y a les problèmes pour ce qui concerne les détenteurs de titres miniers. Tu vois, par exemple, une société comme Bando Mining, qui est au sud du Kivu, qui est en train de construire des usines maintenant pour pouvoir commencer l'exploitation. Comment une telle entreprise peut-elle être frappée par de telles mesures au moment où elle fonctionne légalement, elle est contrôlée par tous les secteurs, et dans le domaine des mines, de l'économie et ailleurs. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions. Et là, il n'y a que l'autorité ministérielle qui peut nous répondre.
Mm-hmm.
Mais nous devons quand même comprendre que c'est une situation qui ne peut pas durer longtemps parce qu'elle va avoir beaucoup de conséquences négatives dans les médias. Je vous rappelle, par exemple, je ne sais pas si certains intervenants l'ont dit, mais pour ce qui concerne simplement la province du Nord-Kivu, la province tire 30% de ses ressources des impôts qui sont payés par les acteurs déterminés. Donc, vous amputez une province de 30% de ses recettes, il laisse 70%. Il faut trouver comment combler ces 70%, de ces 30% qui sont déficitaires, mais bien évidemment, la pauvreté qui va arrêter du poids des les acteurs du secteur minier, qui vont sur le sol de chômage et leurs agents. Donc, c'est toute une chaîne qui comprend plus d'un million de personnes qui doit être affectée. Et donc, je crois que la mesure qui doit être prise, il faut que, dans un délai le plus court, les mécanismes de contrôle soient mis en place le plus vite possible pour arriver à une certaine traçabilité, mais également que l'on puisse voir en attendant quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour mettre à l'aise les entreprises
en
ordre. Pour éviter d'avoir des pénalités vis-à-vis de leurs partenaires étrangers.
Donc, autant de mesures pour accompagner ces décisions. Mais il y a un auditeur, Sylvain de Bounia, sans oublier Adolphe de Bukavu, qui se sont posé des questions. Mais maintenant, que peut-être il y aura plusieurs exploitants artisanaux qui seront au chômage. Vous êtes expert dans le secteur minier. Quelles sont les activités, les alternatives que vous pouvez proposer à tous ces exploitants miniers? Le temps, bien sûr, de la suspension.
Oui, c'est vraiment difficile, d'autant plus qu'on ne connaît même pas la durée de la suspension. Si on savait que la suspension est pour un mois, deux mois, trois mois, on peut donner des alternatives. Mais aujourd'hui, la décision du chef de l'État ne nous a pas éclairé quant à ce qui concerne la durée. Mais nous disons que cette durée doit être la plus courte possible. Mais si la durée doit être longue, bien évidemment, il faut reconvertir les artisans miniers en agriculteurs, parce que la minerie reste quand même une ressource renouvelable et qui peut valablement remplacer les mines pour ce qui concerne les artisans. Et bien évidemment, si on décide d'orienter l'activité minière en termes de coûts industrialisés, à ce moment-là, il faut reconvertir les artisans.
Il y a encore tout un programme qu'il faudrait mettre. Là, c'est encore tout un programme qu'il faudrait mettre en
voilà,
place.
Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose à court terme.
Oui.
À court terme, il faudrait que le gouvernement puisse donner au moins l'équivalent des recettes qu'avaient les artisans miniers par mois. Et je vous dis, j'ai un tableau ici communiqué par l'EFEC Nord Kivu. Ils disent que les artisans miniers au Nord Kivu percevaient par mois 1 100 000 dollars. Donc, vous allez imaginer une enveloppe de 1 million de dollars que le gouvernement pourrait commencer à distribuer chaque mois aux artisans. Comment les identifier d'abord? Parce que ce sont des personnes qui sont souvent mobiles, ils vont des camps à camp selon l'endroit où ils peuvent rêver. Donc c'est quand même un problème sérieux à être résolu dans l'immédiat pour permettre à ce que ces personnes ne puissent pas mourir de faim ou qu'ils se prêtent bien évidemment pas à des groupes armés comme les DLR et autres qui sont encore malheureusement sur le terrain, même s'ils ne sont plus aussi violents qu'avant.
Oui, M. François Nzekouy, on vous garde en ligne au bout du fil. Le temps d'écouter aussi Georges de Kinshasa et Marcelin de Kindou.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Bonjour Georges.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, Georges, on vous écoute.
Marie-Chantal, moi je dis que la décision du chef de l'État est très bonne. Il y a une crainte là. Je suis en train de me demander si on n'est pas en train d'aménager la place bande pour les militaires FRDC, les policiers, les SLR et autres maïmaï, au détriment de la population. Parce qu'il y a une question, qui va contrôler toutes ces mines-là? Comment où la population va les quitter? Ce sont les mêmes SLR, les mêmes policiers, les mêmes FRDC ou le maïmaï? Donc, j'ai une mauvaise expérience. Il faut en Bougemaï, on a interdit que les gens ne traversent pas la suite de l'aéroport de Bitumba pour aller à Bitumba. On a placé les policiers. Et qu'est-ce que les policiers ont fait? Ils ont tout simplement réglementé. Donc, vous passez, vous donnez maintenant l'argent.
Non, ça renseigne la population. C'est pas ça.
Voilà. Alors, moi, je me dis en conclusion que la décision, elle est bonne, mais je doute beaucoup fort que les mesures d'accompagnement soient efficaces et répondent aux attentes du chef de l'État.
Donc, c'est ça votre question, vous inquiétez, vous posez des questions pour savoir si effectivement ces mesures d'accompagnement vont réellement aider afin que cette mesure soit appliquée. Merci Georges de Kinshasa. Bonjour Marcela.
Et bonjour Marie Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes à Kindou. Dites-moi un peu comment est-ce que vous réagissez face à cette décision?
Oui. En fait, nous, la décision du chef de l'État a été bien accueillie. Sauf que nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions, savoir quelles seront les mesures d'accompagnement par rapport à cette décision. Imaginez-vous, madame, il va se poser un problème. Les mines, et bon, les opérateurs, mais les opérateurs de mines. Dans les carrières, il y avait beaucoup de personnes, des milliers de creuseurs, beaucoup d'opérateurs de mines qui vont rester en chômage désormais, que la décision doit entrer en exécution. Mais que seront ces gens-là? On risque de se heurter à une difficulté selon laquelle on va chercher la solution à un problème, vous créez l'autre. Dans ce sens que, imaginez-vous demander. Prenons le cas de Walikale. Hein. Le Walikale, on a besoin de la paix. On risque de ne pas avoir cette paix qu'on a besoin. Dans ce sens, tous ces creusaires, tous ces opérateurs miniers risquent de se transformer en milices simplement parce qu'ils n'ont pas de préoccupations. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, les autres, bon, j'ai attendu notre invité en train de parler de l'agriculture. Mais la décision allait sortir en même temps avec l'agriculture comme une mesure d'accompagnement. Mais la mesure d'accompagnement va venir après que la décision soit sortie et que la décision soit entrée en exécution. Imaginez-vous ça. Je vais poser une question à l'invité. La question est de savoir quelle est la mesure d'accompagnement, à part cette mesure d'agriculture-là. quelle est la bonne politique pour lutter contre ces milices, là à l'est du pays, entre autres à Walisan, là où les mines faisaient rage, et autre chose, la bonne politique pour lutter contre ces problèmes qui pourra aussi s'éclater dans peu de jours de ces gens-là qui vont se transformer en chômeurs alors qu'ils avaient leurs préoccupations. Mmh. Seulement parce que le chef de l'État a pris une décision selon laquelle il y a plus d'exploitation des mines.
Marcelin, merci beaucoup. Vous êtes à Kindu, mais il faudrait vous dire que notre invité ne pourra faire vous donner que des propositions parce que nous avons espéré avoir comme invité le directeur de cabinet du ministre des Mines, mais malheureusement, il y a une coïncidence, notre émission se tient presque au même moment que la conférence de presse que va donner le ministre des Mines sur les mesures d'accompagnement de cette décision. Donc, notre invité ne pourra vous donner que des propositions de solutions à vos questions. Il y a aussi Kani de Lubango, il nous écrit à partir de Bukavu, il dit, je suppose que la décision du chef de l'État sera appliquée et qu'elle a été prise au profit du bien-être des Congolais. La décision, et j'imagine qu'il doit, il y a une motivation pour arriver à cette décision et que ça sera au profit des Congolais. Juste une question, a-t-il pensé à mettre en place un autre moyen de survie pour tous ces exploitants des mines? Voilà autant de questions, des préoccupations qui reviennent. Quelle est la solution? Quelle est l'activité qu'on pourra donner à tous ces exploitants en minier? Nous avons Jérôme Tétana de Kinshasa qui va s'exprimer dans quelques instants. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme, on vous écoute.
Je voudrais d'abord, en tant que journaliste, vous féliciter pour le travail combien important que vous abattez, parce que c'est un sujet vraiment d'actualité. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec la décision prise par le gouvernement, notamment par le chef de l'État, dans la mesure où le manque à gagner est beaucoup plus important que ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme difficulté au niveau de notre société. Vous pouvez vous imaginer, en une année, le Rwanda, l'Ouganda et même le Burundi en partie déclarent plus de 40 tonnes d'or, alors que ces pays-là ne régorgent pas dans leur sous-sol du métal jaune. N'en parlons pas en ce qui concerne, par exemple, les colombo-tantalites. Vous avez des fours qui sont installés à Kisenyi, au Rwanda, à Kigali, et ainsi de suite. Je pense que la décision est bonne, même si elle est tardive, mais il faudra prendre des mesures d'encadrement pour que cette décision ne puisse pas vraiment donner un effet contraire à celui, des effets contraires à ceux qu'on attendait de cette décision. Alors, je voudrais également signaler le fait que, bon, nos compatriotes peuvent se plaindre parce qu'ils vivaient essentiellement des minéraux et tout ça, mais je pense, à mon avis, que cette mesure peut renforcer la paix. Peut renforcer la paix dans la mesure où il y avait des groupes armés qui se permettaient d'exporter des minéraux à partir de la République démocratique du Congo sans passer par des formalités officielles. Vous avez des agents qui atterrissaient de l'Ouganda à l'intérieur du territoire national et qui partaient directement à l'Ouganda ou même au Rwanda. Sans le moindre contrôle, moi je pense que cette mesure elle est vitale pour l'économie de la République démocratique du Congo. Ce qu'on doit faire est d'étendre cette mesure jusqu'à la province orientale. Parce que le gouvernement a pris cette mesure pour le grand Kivu, c'est-à-dire le nord, le sud Kivu de Maniema, mais il y a des agents qui continuent à atterrir au niveau de la province orientale et qui partent avec le numéro sans qu'on puisse se contrôler. Et il ne faut pas se limiter à financement. Le gouvernement doit mettre la main à la poche pour se doter d'un radar qui doit repérer le moindre appareil volant qui peut entrer à l'intérieur du territoire national pour que nous puissions contrôler. Parce qu'il ne suffit pas d'intervenir. On peut intervenir si on n'a pas les moyens de contrôler. Et bien, ces gens viendront et continueront à faire mon travail.
S'il vous plaît, Jérôme, ce qu'il faudrait aussi retenir, c'est que c'est souvent dans des zones qui ne sont pas contrôlées par nos forces armées qu'il y a de l'exploitation vraiment illégale et illicite, parce que c'est vrai qu'on accuse aussi certaines autorités de la RDC, certains officiers des FARDC d'exploiter aussi illégalement ces minéraux. Mais est-ce que vous pensez qu'au niveau dans les poches de résistance, où déjà la RDC n'arrive pas à contrôler, est-ce que ce sera possible aussi de pouvoir faire appliquer cette mesure?
Ça sera possible. Ça sera possible dans la mesure où nous sommes propriétaires de ce pays. Le Congo appartient aux Congolais et le gouvernement congolais est souverain. Il peut prendre des mesures. Si à son niveau il n'arrive pas à faire respecter ces mesures, il peut en faire en contact avec l'ONU, avec d'autres structures beaucoup plus appropriées. Et nous se disons que nos troupes sont aussi complices. Certains officiers, il ne faut pas qu'on se cache les choses, certains officiers de notre armée sont impliqués jusqu'au cou dans l'exploitation illégale de substances minérales précieuses. La plupart des maisons que vous voyez construites, qui sont construites à Kinshasa et même à l'intérieur du pays, sont construites avec de l'argent sale, de l'argent du
système. Il faudrait encore mener des enquêtes pour prouver cela.
Mais bien sûr, il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes. Et il faut qu'on arrive vraiment à les prouver. Les enquêtes sont prouvées. Il y a des gens qu'on a déjà condamnés là-dessus. Au-dessus de ce qui concerne les impôts. Donc, il y a des gens qu'on a condamnés. Et je vous dis, je suis là. Même certains expatriés des organismes, des systèmes, des organismes internationaux, des organismes du système des Nations Unies. C'est libre aussi à ça.
Donc,
et je fais très peu attention parce que c'est un gros business. Le Congo est tué non seulement par ses propres fils, mais également par les étrangers qui veulent que la guerre puisse perdurer parce que c'est des hommes de droit qui profitent à ces gens-là qui viennent prendre le libéré et aller s'enrichir pendant que nous profitons de la misère.
Merci beaucoup, Jérôme, pour votre intervention. Vous saluez cette décision du chef de l'État. Nous allons écouter tout de suite Agandi. Il est de Bukavu, il est au bout du fil. Bonjour, Agandi. Agandi? Nous l'avons perdu, la réalisation est en train de se battre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons encore des problèmes de communication. Mais nous allons faire un effort. Nous poursuivrons cette émission juste après ceci.
Vous êtes le centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi est aussi avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Paroles aux auditeurs. Paroles aux auditeurs. Parler, le transmettons, proposer, le discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, lors de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est pour Radio Okapi.
Notre invité, c'est François Ndessouyé, le directeur général du Bureau d'études minières et environnementales, EMS, une organisation d'expertise dans le secteur minier. J'espère que vous êtes toujours au bout du fil. Nous avons aussi perdu notre invité. Là, vraiment, on a des problèmes de ligne, de réseau. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter. Et aujourd'hui, nous parlons de la décision du chef de l'État de suspendre l'exploitation minière dans le Nord Kivu, le Sud-Kivu et le Maniema. Après avoir fait un conseil, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'une décision comme ça tombe sur trois provinces, mais il y a eu d'autres décisions. Par exemple, tout juste le Premier ministre avait aussi pris en son temps une décision pour pouvoir démilitariser ces zones minières, toujours dans le sens où le gouvernement avait constaté une exploitation illégale des mines, mais aussi après avoir constaté avec les ONG de défense des droits de l'homme, avec toutes les structures internationales, que en fait l'exploitation des mines alimentait les groupes armés. Donc il y a autant de constats qui ont été faits pour pouvoir comprendre des décisions afin de stabiliser la région de l'Est. La réalisation de technique que notre invité, on a pu le recontacter, M. François Ndessouyé, comme je le disais, vous êtes notre invité. Vous avez suivi, je l'espère, nos auditeurs qui sont revenus, qui ont donné leur avis sur la décision du chef de l'État. Une réaction de votre part?
Oui, en fait, moi je crois que pour arriver à trouver une solution définitive à ces problèmes, d'abord, il faut rétablir l'autorité de l'État dans les zones couvertes par cette activité minière, mais spécialement en faisant une permutation des hommes en armes. Parce que, en laissant les ex-éléments CNDP dans les mêmes milieux où ils ont été, ils ne changent pas de comportement, ils se comportent de la même manière que quand ils étaient des rebelles. Donc, la première solution, à mon avis, ce serait de permuter ces éléments ex-CNDP qui sont aujourd'hui dans l'armée loyale, les amener dans une autre province et amener des nouvelles unités
vénère d'ailleurs, et avec des instructions très claires pour qu'il ne s'occupe que du travail, du maintien de la paix dans la région, et non pas de se mêler aux activités minières. Deuxième chose, il faut démanteler la filière, parce que quand les communiqués du ministre des Mines disent qu'il y a des autorités militaires au niveau local, provincial et national qui sont impliquées dans les trafics, c'est qu'ils les connaissent. Donc, en connaissant ces personnes qui sont impliquées dans ces trafics, il faut les identifier et les sanctionner pour que cela cesse. Le simple fait de les dire n'est pas une solution. Et, enfin, ne permettre que aux opérateurs miniers qui sont en règle avec l'État d'œuvrer dans le milieu et avoir la possibilité de connaître quelle quantité ils produisent, quelle quantité ils commercialisent et ils exportent à l'extérieur pour que l'État puisse tirer les dividendes qui sont dus, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans qu'il y ait des impôts. Et donc, on ne peut pas tolérer qu'il y ait une fuite de nos richesses à travers des personnes qui n'arrivent pas à se faire identifier ni qui n'arrivent pas à payer les taxes. Mais aussi, bien évidemment, il faut qu'on arrête avec le trafic d'influence, parce que, en réalité, quand on est à Goma, on se rend compte que la division des mines n'a presque pas d'autorité. Il reçoit des injonctions venant de toutes parts pour permettre à ce que les quantités énormes puissent être exportées sans pour autant payer les taxes. Donc, je crois que ce compliqué étant et a été établi par l'autorité, il est important que l'autorité sanctionne les personnes impliquées dans ce trafic, les deux, et l'on délocalise les gens de CNDP parce que ces personnes-là ont été campées dans ce trafic pendant longtemps, et tant qu'ils sont sur place, ils ne vont pas arrêter.
Mais Monsieur François Zécouy, quand même, ce n'est pas la première fois qu'il y a des décisions pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, essayer de démilitariser les zones minières, mais aussi de pouvoir mettre fin à l'exploitation. Mais cette décision, quand même, faut dire qu'elle est assez forte, parce que quand même, ça concerne les trois provinces. Quelles sont les chances que cette décision soit vraiment respectée, que ce soit la bonne?
Oui, je crois qu'il y a un problème d'abord de volonté politique, comme je viens de vous dire. Pour régler un problème, il faut en connaître les causes. Aujourd'hui, les causes sont claires.
Là, on a encore un problème de liaison. On va essayer de la réalisation. On est en train de se battre pour pouvoir recontacter notre invité. Mais nous avons Séraphin de Bukavu. Il est en ligne. Bonjour, Séraphin.
Oui, bonjour, Marie Chantal Lumba.
C'est une chance quand même qu'on puisse vous contacter parce que là, on a des sérieux problèmes de ligne. Séraphin, on vous écoute.
Oui, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Permettez-moi d'abord d'expliquer nécessaire comme on lance la radio Utopie, suite au dossier de l'actrice AI de l'information publique et la médecine. Moi, je crois que sur le plan politique, la décision est d'abord bonne parce qu'elle freinera un peu l'exploitation locale de nos richesses par des groupes armés étrangers et nationaux contrôlés. Puis, le minéral de ces deux provinces constitue pour le financement. Et profitons aussi à certaines autorités civiles et militaires du gouvernement central qui a entretenu d'une manière indirecte les conflits armés dans l'est du pays. Vraiment, sur le plan politique, c'est une bonne décision et qui nous a beaucoup assenté. Mais je me demande si cette décision aura un impact positif parce qu'à ma connaissance, dans certains secteurs miniers, l'autorité de l'État n'est pas rétablie. Certains secteurs miniers sont contrôlés par des groupes allemands. Alors, c'est pourquoi je me demande, est-ce que cette décision aura un impact positif? C'est ma crainte. Mais sur le plan socio-économique, madame, vous savez très bien qu'au moins 40% de l'économie de ces deux provinces repose sur le secteur minier. En plus, le gouvernement central, sur sa fonction, il a démissionné totalement de sa fonction de retour de ressources de nationales équitables. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a eu d'abord des mesures d'accompagnement pour que cette décision ne puisse pas entraver l'économie de ces trois provinces? C'est ma préoccupation.
Votre préoccupation, c'est que les mesures d'accompagnement, pour l'instant, ça va se tenir d'un moment à l'autre. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais nous espérons que ça a déjà commencé. Le ministre des Mines va tenir une conférence de presse sur ces mesures d'accompagnement. Mais si vous étiez demandé de faire des propositions, à votre avis, quelles pouvaient être ces mesures d'accompagnement?
Bon, à mon avis, les mesures d'accompagnement, c'est parce que vous savez, aujourd'hui, plusieurs Congolais vivent par des activités de subsistance. Parce que personnellement, j'ai été la chef d'être à Walikale, j'ai vu même certains licenciés pions démissionnaires de la section d'enseignants, elles sont en train d'attirer aujourd'hui l'activité de subsistance, dont l'exploitation d'une manière artisanale. Alors, ça leur profite pour certaines activités de subsistance pour leur survie. Alors, je me demande, est-ce que c'est aussi un commerce qu'ils vivront maintenant lorsqu'on vient de prendre une décision? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je disais à monsieur que le poumon, donc, soit l'économie de ces deux provinces repose sur une recette minière. Alors, je me demande, est-ce que ça ne peut pas entraver les finances publiques de ces trois provinces? Ça, ma crainte. Donc, il faudra qu'ils puissent privilégier ces trois provinces pour que cette décision ne puisse pas entraver les finances publiques de ces trois provinces. Ça, ma préoccupation.
Donc, il faudrait trouver des mécanismes pour que les ressources de ces trois provinces, qu'on puisse trouver une issue palliative, si on peut appeler ça comme ça, à pouvoir compléter le budget de ces trois provinces, mais aussi trouver d'autres activités à ces exploitants artisanaux qui vivent que de l'exploitation.
Tout voilà. À fait, madame, ça, ma préoccupation.
Séraphin, merci pour votre intervention. Nous avons Patty. Bonjour, Patty.
Bonjour.
Oui, Patty, vous intervenez à partir d'où?
Ben, à partir de Kishasa Gombe.
Oui, Patty, dites-nous comment vous êtes même un exterminé, c'est assez intéressant.
Oui, je suis expert en droit minier, avocat.
Ah, ça c'est très bon pour nous, pour notre émission. Vous savez que c'est avec beaucoup de difficultés qu'on arrive à joindre aujourd'hui nos auditeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux à vouloir participer à cette émission, tous ceux qui se sont inscrits, mais c'est pas de notre faute si vous n'arrivez pas à pouvoir être mis en ligne. C'est assez difficile pour nous aujourd'hui. Mais Patty, vous êtes là, dites-nous comment réagissez-vous face à la décision du chef de l'État.
Ben, je dirais que c'est en tant que technicien du droit minier, je pense que l'ère démocratique voudrait que tout ce que nous puissions faire doit s'inscrire nécessairement dans la voie du respect en fait des textes. Dans le respect de textes qui établissent cela. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir le code minier. À lire les dispositions du code, il faut que les multiples auditeurs de votre prestigieuse radio se rendent compte d'une chose, c'est que le chef de l'État a bel et bien les compétences que le code lui reconnaît en tant que tel et le ministre des Mines aussi. Voyez-vous, je pourrais dire quelque chose, c'est que le chef de l'État a entre autres pour attribution, dans l'État, c'était la publication du règlement minier qui devait servir de mesure d'application du code, le classement et le reclassement de certains gisements, si vous voulez. Ça, c'est de la compétence du chef de l'État. Et le ministre, c'est dans l'octroi et le refus d'octroi des droits miniers et des droits de carrière. Mais ici, il ne faut pas perdre de vue que si la mesure porte sur la suspension des activités artisanales de mines, eh bien là-dessus, il ne faut pas que les gens se perdent en se disant plutôt que les codes miniers instituent des zones d'exploitation artisanale.
Oui,
et ça, c'est la compétence du ministre des Mines. N'agit pas motu proprio.
S'il vous plaît, Patty, il faudrait d'abord souligner que cette décision concerne toutes les catégories d'acteurs miniers, c'est-à-dire les détenteurs de titres et droits miniers, les comptoirs, les négociants, ainsi que les exploitants artisanaux.
Je suis en train d'aborder cela en termes de la double facette de cette mesure.
Oui, mais aussi, Patty, s'il vous plaît, il faudrait qu'on puisse échanger, parce que aussi, il faudrait ajouter que cette décision a été prise après un constat. On a découvert, ils ont constaté qu'il y a l'ampleur de l'exploitation minière dans cette partie du pays, résultant du fait des activités des groupes mafieux qui renforcent en dépit des efforts de stabilisation la sécurité récurrente, mais aussi à ce paradoxe entre les richesses minières que regorgent les provinces de l'Est et la pauvreté généralisée de leur population, sans oublier l'implication manifeste de certaines autorités locales, provinciales, nationales, sans civils que militaires, dans l'exploitation illégale et le commerce illicite de toutes ces substances. Donc voilà les raisons, les motivations de cette décision. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de parler du code minier, ce qui est respecté. On sent que c'est une décision pour la sécurisation de l'Est du pays.
Bon, vous savez, je l'ai dit d'emblée, c'est que il faudrait que, quoi que nous puissions faire dans un État démocratique, nous devons le faire au respect de textes qui régissent en fait le ce pourquoi on agit. Vous avez parlé, je voudrais vous rejoindre en disant que ben, on s'est rendu compte qu'il y a des autorités qui ne devraient pas intervenir dans l'application du code, qui interviennent et qui posent pratiquement tout le jeu. Mais là, si c'est ça le constat du gouvernement, mais nous, peuple, nous devons demander au gouvernement qu'est-ce que le gouvernement fait en fait pour identifier ces autorités-là et si elles sont identifiables. Et qu'est-ce que le gouvernement prévoit comme mesure sanction, donc disciplinaire en fait, contre ces autorités qui ne respectent pas le code minier. C'est ce que je disais. Donc là, ça ne devrait pas préoccuper le gouvernement, d'autant plus que le code définit les différentes institutions devant intervenir dans des parcelles bien précises dans l'administration du code minier. Donc si on admet qu'il y a des autorités qui ne sont pas habilitées qui le font, là c'est un problème carrément qui se pose dans l'âme même de notre État. Il y a deux, vous avez aussi évoqué notre point, c'est que on sait qu'il faut que les mines ne profiteraient pas forcément aux entités dans qui sont minées. Mais là, le constat, tout est ça le constat. Là, je pense qu'il faudrait suspendre toutes les activités minières à travers tout le pays. D'autant plus que, ben, si j'allais avec vous à Chicapa, et qu'on se mettait à chercher l'impact du diamant de Chicapa dans les équipes quotidiennes des citoyens de Chicapa, ben, vous serez surtout de vous rendre compte que les diamants de Chicapa ne profitent pas à Chicapa. Si je vais avec vous à Mbujimayi, ben, parlant de la modernité de la ville, mais Mbujimayi, c'est une ville, d'aucuns disaient d'elle que c'était la plus grande capitale du diamant au monde. Mais allons avec vous à Mbujimayi pour voir si Mbujimayi a vraiment cet impact-là de la capitale du diamant.
Merci beaucoup, maître Patti, c'est vraiment autant de préoccupations. Le temps d'écouter Malonga, qui sera notre dernier auditeur, malheureusement. Malonga, vous êtes à Bandundu, bonjour.
Bonjour, madame.
Et en une minute, on vous écoute. Quel est votre avis?
Oui, la décision de notre chef de l'État, en tout cas, est appréciable, hein, est louable. Mm-hmm. Parce que celui est le seul chef de notre État. Mais, ce que je peux dire à mon confrère qui a dit que c'est une décision qui vient en retard, non, ce n'est pas en retard. Parce qu'il y a longtemps que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voulu suspendre cet exploitateur artisanal, puisque c'est cet exploitateur artisanal qui alimentait le gaz. Mais l'autorité étatique n'a pas eu le pouvoir. Comme le président commence à diriger, à gouverner toute l'intégrité en tout cas nationale, donc il a droit. Il faut que cette décision soit soutenue par la population sur le groupe. Mais ce que je peux dire à chef de l'État, est-ce qu'il y a aussi des mesures d'encadrement pour cette population qui est jusqu'à présent aérée? Parce que vous savez que la population congolaise, jusqu'à aujourd'hui, s'alimente elle-même.
En tout cas, Malonga, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Le temps pour nous de pouvoir aussi écouter notre invité pour conclure cette émission. Nous vous remercions d'être intervenu pour votre intervention, bien sûr. Nous redonnons la parole à notre invité, M. François Nzekouyé. Encore une fois, vous avez suivi nos auditeurs. La plupart des questions, les préoccupations reviennent sur ces mesures d'encadrement qui vont suivre, qui vont accompagner cette décision. En conclusion, M. François Nzekouyé, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, on peut retenir que tout le monde est unanime que s'il y a problème en matière de solution minière dans l'est du pays, il y a un problème de complicité à tous les niveaux. Et donc, une fois en place tous les réseaux, on pourrait rendre l'activité minière conforme, comme l'a dit M. Patilendo, qui souhaite effectivement que ces intervenants qui sont reconnus par les codes miniers interviennent. Mais je souhaite que, entre temps, l'on permette aux entreprises minières ou aux négociants qui ont des minerais sur place puissent les exporter pendant cette période pour éviter qu'il y ait des stocks qui soient inutilement en réserve dans leurs entrepôts. Mais en même temps que le gouvernement rassure les entreprises minières et les comptoiristes, négociants et la population que cette suspension va être de courte durée pour éviter tous les malaises qui vont arriver et que le gouvernement n'est pas capable de prendre en charge pour le moment et d'amener toutes ses responsabilités actuelles.
Mm-hmm.
Et donc, en définitive, que cette décision va avoir quand même un impact positif, c'est lui de rendre le secteur minier dans les Kivu beaucoup plus propre et sans implication des militaires, ce qui permettra ce que les partenaires étrangers, notamment les États-Unis, qui avaient pris une décision de ne plus acheter les minerais du Congo sans avoir des garanties que ces minerais ne viennent pas des groupes armés, cette garantie va être désormais établie si on arrive à régler ce problème. Et donc, tout le monde va finalement en profiter, mais comme je l'ai dit encore une fois, il faut que cette suspension prenne le moins de temps possible et que les mesures d'encadrement pour que cela ne revienne plus jamais puissent être prises dès aujourd'hui, de sorte que dans un mois ou deux mois, l'activité minière au Kivu reprenne de plus belle, mais dans des façons qui soient respectueuses des normes du pays et des normes internationales en matière de cette minière, bien évidemment. Les choses, ça profite aussi aux communautés locales, comme l'a dit Nessa Tilem.
Merci. Merci beaucoup, M. Fontaine Descouillet, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général du Bureau d'études minières et environnementales, une organisation d'expertise dans le secteur minier. Nous disons également merci aux auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu s'exprimer à cause des problèmes de communication que nous avons connus au cours de cette émission. Sans oublier de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers la RDC en FM ou sur www.radiocapi.net. Sans oublier que le prochain numéro de Parole aux auditeurs, c'est pour demain. Nous allons parler de la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, une entreprise du portefeuille de l'État qui connaît des difficultés de fonctionnement et vient de recevoir un appui de la Banque mondiale. Selon vous, que faut-il faire pour relancer effectivement cette société? Vous pouvez donner votre avis en nous écrivant dès à présent à pa@radiocapi.net. Merci à Pierre Lamégi, à Sissa Bachidi et Nicole Ngaka qui ont réalisé de main de maître cette émission. Marie-Chantal Lumba est à l'animation. À la prochaine.